Bienvenue à ce nouveau petit cours d'Histoire mondiale, saison 3! Cette nouvelle saison commence au tournant des années 1000 avant notre ère, alors que tant le monde méditerranéen que l'Asie vivent des changements politiques, sociaux, économiques, technologiques et culturels importants. Il faut noter que le fer fait davantage partie de l'arsenal militaire et en vient aussi à être utilisé pour des outils, ce qui n'était pas le cas en fait avec le bronze pour tout ce qu'on a vu en fait pendant notre saison 2. Et on a de nouveaux groupes culturels aussi qui prennent le pouvoir dans différentes régions du monde et qui s'affrontent aussi pour le pouvoir et davantage de territoires et conséquemment de ressources. C'est aussi une époque où l'importance de l'écriture, du savoir, de la stratégie militaire et de l'art, du commerce commence à se faire sentir au sein des élites en place et ça c'est tant en Occident qu'en Orient. Cette saison, entre les cours réguliers et davantage chronologiques, je garde cette stratégie, j'essaierai aussi de glisser davantage de cours thématiques qui vont être liés à des événements en cours dans le monde ou à des éphémérides intéressantes. Et pour ce premier cours, toutefois, on retourne en Mésopotamie et le long du couloir syro-palestinien pour nous intéresser tout d'abord à la fascinante civilisation assyrienne. Nous ferons aussi un bref détour par l'Inde avant de passer en Chine pour aborder une période particulièrement intense à bien des niveaux qui est celle de la dynastie des Zhou occidentaux. Alors, comme toujours, à vos cahiers de notes, c'est parti! La deuxième vague indo-européenne en Méditerranée, communément appelée celle des invasions des peuples de la mer qu'on a vu précédemment, ça signifie une époque de transformation en Mésopotamie notamment. C'est là où on voit l'émergence de nouvelles nations qui sont plus ambitieuses et surtout plus agressives. Et celle qui se démarque, qui en vient à constituer même un empire, eh bien, ce sont les Assyriens qui vont véritablement là, faire des conquêtes territoriales majeures, leur permettant là, d'avoir un vaste territoire et donc d'avoir aussi un système de gestion quand même assez solide, ce qui nous permet là, de parler d'un empire et la période de l'empire assyrien à proprement parler, on parle à peu près des années 1000 à 700 avant notre ère. Et ça, résulte en fait là, de plusieurs siècles de conflits importants qui ont conduit à un mélange de plusieurs royaumes d'empires aussi. Là. On se rappelle un peu ce qu'on a vu du côté des Hittites qui se passait en Égypte. Mais vers à peu près l'an 1000 avant notre ère, les Assyriens deviennent vraiment une très grande puissance qui va parvenir à conquérir un immense territoire pour l'époque là, qui va s'étendre de la Mésopotamie à l'Asie mineure. L'Asie mineure, c'est la côte est en fait du bassin Égéen et c'est ce qui nous mène lentement mais sûrement vers, aussi ce que sont les côtes de Turquie. Ici, on pousse, on s'en va littéralement là, du côté de l'Asie. Mais généralement, pour l'Asie mineure, on va surtout parler de que sont aujourd'hui les territoires de la Turquie, mais ils vont aussi réussir à conquérir une grande partie de l'Égypte. Et quand on parle des Assyriens, il faut faire attention parce que souvent, on va les diviser en trois grandes périodes historiques. La période paléo-assyrienne, la période médio-assyrienne et la période néo-assyrienne, qui est vraiment celle qui nous intéresse aujourd'hui parce que c'est celle pour laquelle on a le plus de documentation, je ne vous le cacherai pas, mais c'est aussi celle pendant laquelle les Assyriens vont vraiment faire la conquête des territoires voisins et établir là, ce grand empire au Proche-Orient. Et c'est pour ça que c'est cette période qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, sous les Assyriens, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir trois grandes capitales successives au gré, en fait, de l'expansion de l'Empire. La première, c'est Assur, qui est vraiment leur lieu d'origine, d'ailleurs, qui est situé au nord-est de l'ancienne Babylone. Ensuite, vous allez avoir Nimrod, et finalement, peut-être la plus connue, peut-être la mieux fouillée aussi du point de vue archéologique, c'est celle de Ninive. Et pour toutes ces capitales, c'est toujours là où le palais va être construit, des palais très fortifiés, on ne se le cachera pas, et les palais vont toujours être le centre du pouvoir, des grandes décisions, et l'endroit, en fait, où on va organiser l'essentiel de l'administration, tant, on va dire, civile, mais aussi militaire, parce qu'on ne se le cachera pas, les Assyriens vont être des champions, en fait, de tout ce qui est administration du monde militaire. Et ils parviennent à constituer cet empire parce qu'ils ont une grande puissance, une grande armée très bien développée, très bien entraînée aussi, qui est composée d'infanterie, qui vont avoir des armes légères et souples, de très, très bons archers et surtout d'une importante cavalerie qui va souvent faire la différence dans leur conquête. Et donc, les Assyriens vont construire cet empire par le biais souvent de ce qu'on appelle des raids rapides et particulièrement violents. Et ça les démarque beaucoup là, de tout ce qu'on a vu en Mésopotamie depuis le début de nos cours, parce qu'ils vont utiliser beaucoup ce qu'on appelle la stratégie de la peur. Et comment ils s'y prennent? Ça fait un petit peu comme des films style Robin des Bois, etc. Tout dépend de l'âge que vous avez, mais c'est qu'on arrive très, très rapidement On incendie des villages, on kidnappe les femmes, on va réduire plusieurs personnes en esclavage aussi, et on va s'assurer que les régions voisines sachent ce qui vient de se passer et craignent suffisamment les Assyriens pour ne pas résister lorsqu'ils vont arriver sur leur territoire. Et donc, bien avant un certain Vlad l'Empaleur, mieux connu sous le nom de Dracula, bien sachez que les Assyriens utilisaient déjà la stratégie de l'empalement, mais un empalement beaucoup plus violent, en fait, parce qu'on va utiliser des lances, on va littéralement juste embrocher les corps, peu importe comment, en fait, on va le faire, contrairement à Vlad l'Empaleur, lui qui va être beaucoup plus méthodique, et ou au minimum, on va embrocher la tête et on va laisser ça là. Donc, on va laisser ça dans les villages qui ont déjà été incendiés et détruits, on laisse ça au soleil, c'est tout un spectacle, c'est sûr que ça crée, ça ajoute en fait à cette stratégie de peur, et on va même en mettre aussi souvent proche de l'entrée des palais royaux pour montrer que si vous voulez parler au roi ou vous voulez vous approcher de l'administration, vous avez intérêt à être très, très, très collaboratif. Donc, l'objectif, en fait, de tout ça, c'est de donner un avertissement à quiconque oserait les défier. Et c'est pour ça qu'ils n'auront pas nécessairement la meilleure des réputations. Contrairement peut-être à l'époque qu'on avait vu d'Amourabi, qui lui aussi a été un souverain conquérant qui en est venu à faire un code de loi pour essayer de gérer son immense territoire. Là, on a une administration qui est beaucoup plus basée sur « nous avons pris le pouvoir, on va gérer ça à notre façon, puis si vous osez résister, on ne se posera pas trop de questions. » En fait, la mort va suivre, tout simplement. Et c'est sûr que c'est une stratégie qui va fonctionner pendant un temps, mais qui va faire en sorte que les populations vont quand même toujours non seulement les craindre, mais les détester d'une certaine façon. Et si les gens se soumettaient, par contre, ça c'est quand même important de le mentionner, parce que c'est pas toujours dit quand on fait de l'histoire très très générale de la Mésopotamie, qu'on parle des Assyriens, on aime bien les montrer comme étant les méchants guerriers, mais il faut quand même dire que si des populations ne résistaient pas, se soumettaient, ou une fois qu'une population était conquise, de ce qu'on voit dans les sources, en fait, les Assyriens les traitaient bien. Ils traitaient bien les peuples conquis, et ils avaient quand même tendance, des fois, à les relocaliser s'ils avaient détruit les récoltes ou détruit un village, et en venaient, au fil du temps, les considérer comme des Assyriens une fois qu'ils étaient intégrés à l'Empire. Donc, une fois que ça s'était fait, ça allait relativement bien. Mais c'est sûr que quand on fait la conquête d'un territoire comme ça, qui est quand même très, très vaste, avec des populations diversifiées, avec des langues diversifiées, des ressources aussi naturelles qui diffèrent d'un territoire à l'autre. L'objectif quand même des Assyriens, c'est entre autres d'avoir tout ce qu'il faut pour le ravitaillement de leur armée, et ils vont exiger des tributs à chaque conquête, soumission, et vont avoir besoin aussi d'un mode de gestion de tous ces territoires-là. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que grâce aux fameuses tablettes cunéiformes, on en a quand même pas mal, en fait, pour les Assyriens, au point où on a une discipline qui s'appelle l'assyriologie, parce qu'on a des spécialistes de leur écriture qui a été de l'acadien et surtout de l'araméen, en fait. On sait, en fait, que le roi, est suprême. C'est lui qui prend toutes les décisions. Il est encore, en fait, un intermédiaire aussi entre le monde humain et le divin. Mais c'est sûr que les souverains assyriens sont quand même beaucoup plus axés sur gestion, gouvernement, conquête, administration de l'armée que sur le domaine religieux. C'est important aussi. Vous connaissez peut-être d'ailleurs là, ces espèces de taureaux ailés qui vont être associés aux Assyriens. Mais c'est beaucoup plus, en fait, même du point de vue religieux, tout est un peu associé d'une certaine façon à la politique. Donc, le roi est au sommet de cette pyramide, et parce qu'il a beaucoup de régions, il va avoir un peu la stratégie qu'on avait déjà, en fait, à l'époque de ce qu'on appelle l'Empire paléo-babylonien, qui est d'avoir des gouverneurs en chef un petit peu partout, et même des lieutenants-gouverneurs, donc des plus petits gouverneurs dans des plus petites régions, pour éviter les révoltes d'une part, les mater si nécessaire, s'assurer qu'il n'y ait pas de problème aussi au niveau des ressources, au niveau des tributs qui sont dus à l'Empire. Et c'est sûr que dans cette pyramide, tout aussi important vont être les chefs militaires et les scribes qui vont devoir noter, en fait, tout ce qui entre, en fait, comme tribu, qu'est-ce qu'on redistribue à l'armée, qu'est-ce qu'on redistribue à l'aristocratie aussi. Donc, c'est quand même un système de gestion qui est de plus en plus organisé. Et il faut quand même noter que le succès de la construction de cet empire-là est passé par de bonne stratégie militaire et une bonne gestion de l'armée. C'est vraiment associé aux Assyriens. Parce qu'au début, bon, ils vont se dire que la guerre, on va la limiter à l'été. Parce qu'il faut quand même comprendre que vous êtes dans des sociétés, même si on exige des tribus et tout ça, qui sont encore dans des économies presque de survie. On a besoin, en fait, des ressources de la terre. Donc, tout ce qui est agricole, il faut faire terriblement attention, même en temps de guerre. On ne peut pas, si on peut l'éviter du moins, il faut éviter, en fait, de détruire les champs, de détruire les ressources, parce que c'est ce qu'on veut. Il faut aménager des voies de passage aussi entre les régions qui vont constituer un empire. Donc, on fait vraiment attention et on se rend compte que surtout au début, en fait, entre les années 1000 et les années 800, la guerre est pas mal limitée à l'été, quand les travaux aux champs sont terminés, on voit un peu tout ce qui est poussé avant, en fait, la période des récoltes qui sont terriblement importantes. Alors, le calendrier agricole va beaucoup influencer le calendrier militaire et le calendrier des conquêtes. Et ça, d'ailleurs, plus tard, parce qu'on va s'approcher lentement, mais sûrement du monde grec, ça va faire partie aussi de l'univers de la guerre et de la paix dans le monde égéen. On va avoir donc des batailles pour lesquelles on a quelques informations. Il y en a une, en fait, en particulier, qu'on a appelée en 853, avant notre ère, la bataille de Kargar, où, bon, d'après les sources, mais ça peut être des exagérations, on va parler qu'on a anéanti 50 000 ennemis, c'est beaucoup, je vous dirais. Mais ce qu'on voit, en fait, à partir de cette époque-là, c'est que les Assyriens arrivent à faire des conquêtes importantes et assez rapides parce qu'ils ont une très, très bonne cavalerie. Et cette cavalerie-là permet, en fait, de développer une armée de conquête. Ils ont aussi une infanterie qui est de mieux en mieux entraînée parce que les Assyriens en viennent à créer une armée de métiers. Et ça, c'est quand même assez nouveau, assez unique, où on va avoir des hommes qui ne travailleront pas la terre. On va les payer en tribu, denrées alimentaires. On va s'assurer qu'ils soient habillés. On fournit l'équipement. Et leur travail, en échange, c'est de s'entraîner tous les jours, de s'assurer qu'il y a une bonne collaboration entre les hommes parce que c'est important sur le champ de bataille et qu'on devienne, en fait, une grande puissance pour ces raisons-là. C'est un peu aussi pourquoi le ravitaillement est un enjeu majeur pour les Assyriens qui, dans leur conquête territoriale, visent des territoires où il y a beaucoup de ressources agricoles. C'est entre autres le cas de l'Égypte. Vous ne serez pas surpris parce que d'après les sources, on se rend compte qu'ils vont avoir besoin de l'équivalent de 70 000 litres d'orge par mois que pour l'armée. Donc, je parle pas ici de la noblesse, je parle pas ici des aristocrates, des scribes qui, eux non plus, ne travaillent pas la terre et vont avoir besoin, en fait, de ressources alimentaires. Et au-delà de ça, ben là, c'est sûr qu'on a besoin de forgerons parce qu'on a besoin de lances, de boucliers qui sont longilignes, hein, ils sont faits sur le long. Les boucliers assyriens, ils ont des casques de bronze, éventuellement plus légers en fer, avec toujours un sous-casque, en fait, avec un bonnet de cuir, là, parce qu'il fait très chaud dans leur région, donc ça, c'est très important. Et c'est un petit peu ce qui fait en sorte que lorsqu'ils arrivent quelque part et qu'ils font ces espèces de raids express où ils tuent beaucoup de gens, ils vont marquer l'imaginaire et la rumeur va se répandre très, très vite qu'on est peut-être mieux de se soumettre que d'essayer d'affronter une armée comme ça parce que personne n'est équipé, en fait, pour leur faire face. Et c'est sûr qu'on a, si vous visitez, en fait, les collections, entre autres, du Louvre et du British Museum, vous avez des collections quand même assez importantes là, de reliefs assyriens où on voit les rois soit dans des situations plus politique, diplomatique même, et on les voit souvent à la chasse ou dans des modes guerriers. Donc, si vous voulez, en ligne, en fait, les deux musées là, permettent de voir beaucoup, beaucoup de ces reliefs qui sont très, très beaux et particulièrement intéressants et impressionnants. Donc, d'imaginer que ça, c'était dans les palais des rois et que c'était, pour certaines, en tout cas, coloré avec en plus ces taureaux ailés qui marquaient les portes d'entrée. Les Assyriens, même s'ils étaient davantage un peuple guerrier, n'étaient pas inférieurs, en fait, à leurs prédécesseurs en ce qui concerne les arts visuels non plus, même si le récit de ces arts visuels-là est peut-être moins basé sur le côté peut-être joie, nature, etc. On est beaucoup plus dans le militaire, dans la diplomatie et la chasse, parce qu'un bon roi qui chasse, qui peut même tuer un lion, va être un excellent souverain. Donc, il y a un peu de propagande ici. Mais ça n'empêche que visuellement, les artistes sont excellents aussi. Et pourquoi on les connaît quand même assez bien, surtout quand on arrive davantage autour des années 850-800, donc plus vers la deuxième partie, en fait, de l'Empire, c'est qu'ils vont se faire attaquer aussi, surtout, bon, dans la dernière phase, le palais de Ninive va être attaqué incendié et il y avait dans ce palais-là une bibliothèque, on l'appelle la bibliothèque d'Assurbanipal, qui est un des grands souverains en fait. Il y a eu plusieurs Assurbanipal pour les Assyriens, mais c'est une bibliothèque du 7e siècle avant notre ère qui est constituée là, d'à peu près 25 000 tablettes d'argile, donc en cunéiforme. Certains fragments sont très, très gros, on a presque les textes complets. Parfois, malheureusement, on a plus des petits morceaux, un peu comme des morceaux de casse-tête. Mais ça fait en sorte quand même qu'il existe cette discipline scientifique qui est l'assyriologie, qui vise à traduire ces textes-là. Ils ne sont pas tous traduits encore en 2025 et qui vise aussi à les réintégrer dans le contexte historique pour mieux comprendre, en fait, l'histoire des Assyriens, peut-être au-delà de tout ce que je viens de vous dire, d'ailleurs. Et le jumelage, en fait, de toutes les données qu'on apprend à chaque fois qu'il y a des traductions de textes avec les fouilles archéologiques en cours, ça, c'est toujours assez intéressant là, de faire des croisements aussi. Et ça vient lentement, mais sûrement, je vous dirais que c'est quand même assez lent, montrer plus la société assyrienne, qui étaient les gens, la place des femmes. Ça, c'est quand même plus récent, en fait, dans ce qu'on appelle l'historiographie de l'Empire assyrien. Et je vous rappelle, parce que c'est quand même important de le noter, que du point de vue linguistique, les Assyriens, c'est un peuple sémitique à l'origine qui, donc, va parler et écrire l'Akkadien. On en avait parlé quand on avait fait, en fait un cours sur Babylone. Et en viennent lentement, mais sûrement, à utiliser l'araméen, ce qui est davantage la langue utilisée là, pour l'époque qui nous intéresse, qui gagne en popularité. Là. Vous allez vous dire, l'araméen, est-ce que c'est la langue qui était parlée aussi en Judée et tout ça? Oui, parce que les Assyriens vont aussi contrôler, en fait, une bonne partie du couloir syro-palestinien là, pendant les 300 ans de cet empire. Et l'expansion maximale, d'ailleurs, va se faire sous un des Assurbanipal, Assurbanipal II, qui va régner là, de ce qu'on en sait de 883 à 859, à peu près avant notre ère, qui est vraiment vu comme le souverain féroce, celui qui va parvenir à soumettre l'Égypte. Et il va vraiment passer à l'histoire, avec le peu de textes qu'on a, bien entendu. Il y en a qui viennent d'Égypte, d'ailleurs, comme un despote arrogant, mais aussi comme un visionnaire, parce que c'est lui qui va établir les listes des plantes, des animaux sur tout son territoire. Il veut comprendre, en fait, les ressources naturelles qu'il a à sa portée. Et il réalise que, oui, une armée, c'est important, mais quand on a un aussi grand territoire, on a besoin aussi de gens qui font du commerce, on a besoin de gens qui étudient, qui comprennent le monde aussi. Et il a ouvert beaucoup d'écoles, en fait, sur le territoire de son empire qui n'étaient pas destinées uniquement aux classes aristocratiques et, on pourrait dire, marchandes. Donc, plus de classes sociales, en fait, qui avaient la chance de pouvoir envoyer les enfants à l'école. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Par contre, quand j'ai enfants à l'école, ici, ce sont uniquement les garçons. Parce que là, on se rend compte, et c'est assez récent, que si sous Babylone, avec le code d'Hammurabi, d'ailleurs, on le voyait, les femmes avaient beaucoup de droits, étaient presque égales aux hommes, et avaient même le droit de divorce, rendu sous les Assyriens, en fait, c'est une régression complète. Elles n'ont pas, en fait, de droit. Elles n'existent pas comme citoyennes, en fait, du côté de l'Empire assyrien. Un autre des souverains qu'on connaît quand même assez bien, grâce, entre autres, à la fameuse bibliothèque d'Assurbanipal et d'autres tablettes aussi cunéiformes qui ont été découvertes au cours du 20e siècle, ben, c'est Sargon II, qui lui va régner là, de 721 à 705. Et là, lui, il arrive vers la fin. Donc, c'est le souverain de la fin, en fait, de l'Empire assyrien, alors que les choses vont commencer à s'effriter, parce que là, c'est vraiment une période de grands troubles politiques et militaires, parce qu'il va y avoir des rébellions, en fait. Ces sujets vont se rebeller dans certaines régions. L'ancienne cité d'Assur, en fait, qu'on considère comme la vieille Assyrie. Assyrie va se rebeller contre ce roi-là, veulent retrouver leur indépendance. D'ailleurs, ils vont gagner, ils vont être libérés des taxes, des corvée ou même de ce qu'on pourrait appeler les travaux forcés qui semblent avoir été imposés là, un petit peu juste avant Sargon II et qui vraiment dérangeaient. Et pendant ce temps-là, il y a d'autres régions aussi de la Mésopotamie qui disent « Non, nous, un système de gestion comme ça, basé beaucoup sur la peur, où on impose justement des travaux forcés aux gens, on est en train d'asservir une partie de la population, ça ne nous plaît pas. » Il y a une ville qui est toujours restée, peu importe en fait les pouvoirs politiques en place en Mésopotamie, qui est toujours restée un peu le centre commercial, la belle cité, presque neutre en fait dans tout ça, et c'est la Babylonie, c'est donc la ville de Babylone. Et donc dans la région de Babylone, on est dans le secteur de Bagdad aujourd'hui en Irak, on va profiter en fait de ces troubles qui émergent pour dire, ben nous on va faire quelque chose d'exceptionnel, on va se nommer un roi et qui nous aiment plus que les Assyriens nous suivent. Et donc, il y a des régions qui vont choisir, en fait, d'appuyer Babylone. Et à un moment donné, bien évidemment, ça va mener à des conflits armés entre la Babylonie et les forces assyriennes. Et malheureusement, parce qu'on était habitué, en fait, de régner par la peur et qu'on on était, je dirais, assez bien établi. On voit peut-être pas venir, en fait, le contre-coup. Et c'est sûr qu'on a plusieurs sources, en fait, de ces combats-là. Les deux versions qu'on a, les plus détaillées par les deux de gains. Les Assyriens ont gagné, les Babyloniens ont gagné. C'est comme une tentative de désinformation à l'époque. Mais en fait, vous allez avoir le roi de Babylone qui va l'emporter et qui Babylone va devenir en fait comme une nouvelle puissance qui va commencer à reprendre le contrôle en fait de la Mésopotamie et même du couloir syro-palestinien là, vers la fin du 7e siècle avant notre ère. Et là, ça va nous mener en fait à une Babylone beaucoup plus belliqueuse, beaucoup plus impérialiste que ce qu'on avait vu à l'époque d'Amourabi. Et si vous connaissez davantage cette période-là, peut-être déjà vous êtes en train de dire « Ah oui, ah oui, on parle de Nabucodonosor II, il s'en vient. » Mais c'est sûr que là, on est rendu au 7e siècle avant notre ère, et ça, c'est une période de l'histoire mésopotamienne qu'on verra plus loin, là, dans des prochains cours, parce que pour l'instant, l'objectif, c'est de rester autour des années 1900-800 là, pour les cours qui suivent. Et donc, maintenant que nous avons terminé avec les Assyriens, allons faire un petit saut en Inde, parce que l'histoire indienne, depuis la fin de la civilisation de l'Indus, c'est sûr que c'est assez complexe à documenter, mais allons vérifier quand même qu'est-ce qui se passe au tournant du premier millénaire avant notre ère. Donc, comme je vous dis, la documentation, les artefacts archéologiques aussi sont pas vraiment très riches pour cette époque-là de l'histoire indienne, mais on est quand même capable de la classifier, et quand on arrive autour des années 1000, on parle d'une époque qu'on appelle l'ère védique, et plus particulièrement, en fait, ce qu'on appelle la période védique tardive. Et là, on va parler des années 1000 à 600 à peu près avant l'ère commune. Donc, vous allez voir, en fait, aujourd'hui, pourquoi j'ai choisi Assyrien, Inde et on va aller en Chine, c'est que les sociétés où les dynasties au pouvoir ont des durées qui sont assez similaires. On joue beaucoup entre les années 1700, 1600 avant notre ère. Donc, c'est le cas pour ce qu'on appelle, en fait, l'époque védique tardive. Donc, depuis la fin de la civilisation de l'Indus et ce qui amenait la migration de population dite aryenne davantage vers le nord du pays et le long du Gange, parce que je ne vous cacherai pas qu'on est pas mal certain que la civilisation de l'Indus s'est désagrégée, les gens ont quitté en fait parce qu'il y avait des sécheresses et on va chercher des meilleures sources d'eau, donc c'est le Gange en fait qui va attirer les gens, ben l'Inde va connaître un âge du bronze, un âge du fer, mais pas de manière aussi organisée que ce que vous avez vu pour les civilisations qu'on a pu voir dans notre saison 2. On a des groupes qui sont encore en grande partie semi-nomades. Et ça explique en fait un peu nos problèmes de documentation selon les régions, parce que quand vous bougez constamment, vous laissez moins en fait de traces. Il y a un groupe parmi ces populations qu'on va dire aryennes, qui est peut-être un peu plus avancée, surtout du point de vue de l'écriture, du développement de la pensée, de l'organisation sociale. Et donc, c'est elle qu'on appelle la société védique. Les gens sont, oui, semi-nomades, mais commencent quand même à pratiquer davantage l'agriculture à partir du premier millénaire avant notre ère. Et on sait qu'il y a plusieurs membres de la haute société de cette époque-là qui sont lettrés, souvent les chefs de clan, les chefs de guerre ou les prêtres. Et bon, qu'est-ce qu'on a comme texte? Qu'est-ce qu'on a un peu comme source pour l'époque? Ben, c'est le développement, en fait, surtout de la religion qui est dite védique, qui va vraiment commencer à être élaborée à cette époque-là et qui va mener à l'écriture des premiers textes du védisme. Donc, voilà pourquoi je voulais placer un petit peu, même si on a peu d'informations, là, cette portion de l'histoire de l'Inde dans notre parcours chronologique, parce qu'on va revenir sur le développement civilisationnel là, de l'Inde quand on sera rendu plus loin sur l'échelle chronologique, parce qu'on aura davantage d'informations! Passons maintenant à la Chine, qui, comme je l'ai brièvement mentionné dans le dernier cours de la saison 2, entre elle aussi dans une grande ère de transformation et de conflit au tournant du premier millénaire avant notre ère. On arrive à la fin de la dynastie Shang et à l'émergence de ce qu'on va appeler l'époque des Zhou occidentaux et plus tard, la longue période aussi des Zhou orientaux. Donc, la fin de la dynastie Shang, c'est en fait la rébellion d'un roi qui s'appelle Wang, qui vient de la province Zhou. Et ça va mener à ce premier changement dynastique important. Donc là, je vous donne des dates. Après ça, on va élaborer un peu plus. Donc, quand on parle des Zhou de l'Ouest ou des Zhou occidentaux, Zhou, c'est Z-H-O-U, par ailleurs, on parle de 1046 à 771 avant notre ère. Et ensuite, on va entrer dans une période un petit peu plus chaotique, mais qui va mener à l'émergence de ce qu'on appelle les Zhou orientaux, les Zhou de l'Est, où là, on va avoir la période de 771 à 256 avant notre ère. Et ça, ben, par la suite, ça va nous mener à un certain premier empereur. On n'est pas rendu encore, mais juste pour que vous aider à vous placer là, dans le temps et l'espace. Et donc, si on prend là, les deux dynasties sur, comme une seule et même époque, là, ben, c'est la plus longue période dynastique de l'histoire de Chine. Tout simplement. Mais c'est une période qui est quand même instable. Il y a beaucoup de conflits dans plusieurs régions. Et ces conflits-là font en sorte qu'on va améliorer l'équipement et les stratégies militaires. C'est quand même une période aussi où on a l'écriture. Je rappelle que les Shang avaient standardisé quand même l'écriture. Et on va commencer à améliorer la politique. Alors, c'est le début de la justification du pouvoir des rois selon le principe du mandat du ciel. Mandat qui nous vient du monde divin. Si les justes gardent le pouvoir... c'est parce qu'ils sont justes, justement. Donc, si vous êtes un bon souverain, que vous avez la justice à cœur, l'égalité à cœur, vous allez pouvoir le garder, ce pouvoir-là. Mais si vous osez être corrompu, bien, le ciel va se charger de vous. C'est ce qu'on veut dire par le mandat du ciel. Alors, si on y va dans une trame un petit peu plus narrative de cette dynastie des Zhou de l'Ouest, donc c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, lorsqu'on arrive en fait à la fin de la dynastie Shang, donc comme je vous dis, c'est la rébellion d'un roi de la région des Zhou qui s'appelle Wu, il meurt et son frère, le duc de Zhou, va prendre le pouvoir, mais en tant que régent, en attendant que le jeune fils, en fait, du roi Wu prennent le pouvoir. Et donc, ce duc de Zhou a quand même marqué l'histoire et l'imaginaire chinois. Il est auréolé d'ailleurs de plusieurs légendes parce qu'on le présente quand même depuis longtemps comme un poète guerrier. Parce qu'il a écrit un texte de divination. Vous vous rappelez un petit peu ce qu'on avait vu sur l'importance de la divination d'ailleurs en Chine ancienne. Ce texte de divination s'appelle le I Ching. Et il s'est en même temps démarqué du point de vue militaire parce que c'est lui qui va commencer à étendre les territoires vers l'Est. Et un fait assez rare si vous intéressez à l'histoire des régences. Il n'abuse pas de son pouvoir. Il va abdiquer lorsque le fils de Wu va être en âge de prendre le trône des Zhou. Alors ça n'arrive quand même pas si souvent que ça dans l'histoire. Et donc, en ce qui a trait à la période de nos Zhou occidentaux, c'est quand même une dynastie qui va conserver les acquis de la dynastie Shang, le système d'écriture, le calendrier, les techniques de construction des villes qui se sont mises en place, mais il y a quand même aussi des différences. La dynastie Zhou va se caractériser par le développement d'un État qui est décentralisé. Et ça, c'est assez rare quand on parle en fait de dynastie. D'habitude, on va parler de centralisation du pouvoir. Là, on va le décentraliser. Et ça, c'est quand même un bon contraste là, avec la dynastie précédente qui était la dynastie Shang. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'on va diviser le territoire en tout petits États qui vont être dirigés par des membres du gouvernement central. Là, ici, il y a peut-être un petit écho, d'ailleurs, avec les Assyriens. Vaste territoire de plus en plus grand, autant le fragmenter pour mieux l'administrer. Et donc, le gouvernement va être basé sur une hiérarchie sociale et économique qui est de type féodal. Donc, encore une fois, on a des petits échos, en fait, avec le Moyen-Âge occidental. Et c'est ce qu'on avait vu pour les Hittites aussi, du côté du couloir syro-palestinien. Et donc, ça va impliquer que les hommes de la noblesse vont détenir des terres, de grands domaines agricoles, et vont octroyer des terres, redistribuer des terres à des paysans. Et les régions que ces nobles-là occupent, leur sont données par le souverain de la dynastie. Donc, ils redistribuent ensuite les terres et les font cultiver par des paysans. Et chaque grand domaine, on pourrait même dire immense domaine, est donc géré par un aristocrate et sur son territoire, il développe ses propres lois, il a ses propres troupes militaires, mais qui n'ont pas nécessairement la même puissance et les mêmes pouvoirs, on pourrait dire, que celles qui accompagnent le souverain, ils vont même développer leur propre monnaie avec leur propre symbole. Parce que c'est une époque, effectivement, où on utilise déjà des pièces métalliques qui sont perforées, c'est plus facile à transporter sur une corde, pour commencer à payer divers biens. Et ça, c'est des systèmes qui vont commencer à se standardiser le plus on avance dans le temps. Et avec un tel système, ben, les Joe de l'Ouest sont parvenus à éviter plusieurs rébellions là, sur ce territoire qui avait quand même pris beaucoup d'expansion. Et ils ont quand même réussi à maintenir une paix relative là, avant les guerres du 8e siècle qui, elles, vont favoriser, je dirais, des conflits quand même assez importants. Il va y avoir une période très trouble qui s'en vient, dont nous parlerons prochainement. Mais néanmoins, grâce à cette période de paix relative que les Joe de l'Ouest ont réussi à maintenir pendant presque 300 ans, mais c'est sûr que ça a favorisé le développement de la littérature et les débuts de la philosophie politique. Et là, on est avant la naissance d'un certain Confucius. Alors ça, c'est quand même assez intéressant. Et donc, on va s'intéresser aux Joe orientaux ben, plus tard en saison. Pour en savoir plus sur les sujets d'aujourd'hui, ben, je vous recommande entre autres l'Empire assyrien, histoire d'une grande civilisation de l'Antiquité de Josette Elahi, qui est paru chez Perrin. Et en anglais, parce que c'est peut-être le plus complet, Early China, A Social and Cultural History par Li Feng. Et ça, c'est paru aux presses universitaires de Cambridge. Et si vous souhaitez suivre mes actualités en histoire et en archéologie sur les réseaux sociaux, mes deux comptes Facebook sont Evelyne Ferron, historienne, où je fais ce que je veux en fait en histoire. Des fois, je publie des petites éphémérides, je partage beaucoup de choses. Et mon compte d'actualité, là, qui est Historiophile. Et je fais aussi des actualités quotidiennes sur mon compte Blue Sky. Et contrairement au blocage méta là, des nouvelles au Canada, ben Blue Sky me permet là, de publier les liens directement et vous avez juste à cliquer dessus. Donc, si jamais des fois là, ça vous frustre en fait sur Facebook, c'est une belle alternative. Et si vous appréciez ces cours d'histoire, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur les plateformes et à partager les épisodes afin que d'autres personnes les découvrent. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain cours.